pour cet amour extraordinaire, cet amour, Seigneur, incommensurable, inconditionnel que tu as pour nous. Car en nous attirant dans ces lieux, en nous donnant cette occasion, Seigneur, de nous attarder en ta présence et devant ta face, en ayant permis au Dieu que nous puissions te louer d'une manière ou d'une autre, tu nous as manifesté, Seigneur, ton amour. Et nous t'en remercions sincèrement, car par amour pour nous, tu poursuis cette œuvre de régénération. Même lorsqu'il arrive, ô Dieu, qu'en nous, tu rencontres une certaine opposition, une certaine résistance, ce n'est pas pour autant, ô Dieu, que tu nous rejettes. Au contraire, tu continues à agir avec patience, avec longanimité, avec sollicitude. Seigneur, merci. Quel bonheur de t'avoir comme Dieu dans nos vies. Quelle grâce d'avoir une relation, Seigneur, vivante, existentielle avec toi. Tu es tout pour nous. Nous ne pouvons pas envisager un seul instant vivre sans toi, car ça serait la faillite. Que seraient nos vies sans toi? Que serait notre histoire si un jour tu ne nous avais pas rencontrés? Si un jour tu n'étais pas monté à bord de notre barque? Oui, si tu n'étais pas monté, Seigneur, dans cette barque, il y a longtemps qu'elle aurait fait naufrage. Il y a longtemps qu'elle aurait été emportée par toutes ces tempêtes qui balayent notre monde, par tous ces ouragans, Seigneur démoniaque, qui parcourent et traversent le monde, et ne laissant derrière eux que ruines, que désolations, que destructions. Mais un jour, tu es venu dans notre barque, un jour, tu es venu dans notre vie, et depuis ce jour-là, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes passés de la mort à la vie. Depuis ce jour-là, nous sommes entrés dans ton royaume. Oh, merci Jésus de nous avoir libérés du pouvoir du péché, du pouvoir des ténèbres, du pouvoir démoniaque, et d'avoir fait de nous un peuple véritablement libre. Car en toi, nous sommes libres. En toi, nous sommes à l'abri de toute influence diabolique, quelle qu'elle soit. En toi, ô Dieu, nous sommes à l'abri de tous ces projectiles des ténèbres, de toutes ces flèches empoisonnées qui nous viennent depuis les abysses des ténèbres. Ces flèches ne nous atteignent pas. Cette malédiction n'a aucun effet parce que tu es une muraille de feu autour de nos vies. Oh, alléluia. Parce que tu es notre rempart, parce que tu es notre bouclier. Alors aide-nous à demeurer en toi. Car tant que nous demeurerons en toi, Seigneur, peu importe le contexte dans lequel nous nous trouvons, eh bien nous irons de gloire en gloire. Si nous demeurons en toi, nous restons attachés à toi. Si ta parole continue à exercer son autorité sur nous, alors rien ne pourra nous résister. Alors nous ne subirons pas la vie. Au contraire, nous régnerons dans la vie par toi et par toi seul. Parle, fais-nous du bien par ta parole. Pose ta main sur ton serviteur, accorde-lui la grâce, l'onction, la puissance, l'autorité dont il a besoin pour, Seigneur, enseigner ton peuple, pour lui donner cette nourriture, ce mets succulent, Seigneur, cette nourriture, ô Dieu, convenable dont ton peuple, dont chacun de nous a besoin. Merci, Maître. Merci, Jésus. Amen. Et gloire à Dieu. Au risque de fatiguer certains, je voudrais revenir sur notre thème qui nous accompagne depuis déjà un pas mal de temps. Et comme je vous l'avais dit, eh bien, nous allons rester dans ce thème de l'affrontement du Seigneur avec les puissances des ténèbres jusqu'à l'organisation de notre action d'évangélisation, jusqu'à notre campagne d'évangélisation. Le but est que chacun de nous réalise qui est ce Jésus qui un jour a eu à prendre place à bord de notre barque. Qui est ce Jésus que nous avons rencontré un jour? Car à force de parler de lui, à force d'entendre les gens prononcer ce nom, même à la légère, avec inconséquence, nous avons fini par oublier que ce nom de Jésus est le seul nom qui nous a été donné et par lequel nous avons la victoire en face de n'importe quel combat. Peu importe la bataille, avec Jésus, l'issue est connue d'avance. Donc, nous voici au quatrième épisode de notre thème, Jésus, le destructeur des œuvres du diable. Eh oui, les œuvres du diable sont manifestes. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous toutes ces vies qui sont ruinées, détruites par l'alcool, par la drogue, par l'immoralité, par la corruption. Vous n'avez qu'à regarder autour de nous pour voir comment les gens vivent. Dans la plupart des cas, ils vivent, mes amis, de manière rebelle. Ils sont rebelles contre le Créateur. Ils méprisent sa personne. Ils traînent l'honneur du Créateur dans la boue. Et tout cela n'est pas simplement le fruit d'un cœur pervers ou perverti, d'un cœur, mes amis, rempli de méchanceté, d'un cœur cupide, d'un cœur injuste, rongé, érodé par toutes sortes de péchés, d'un cœur incrédule. C'est vrai, mais derrière cette incrédulité à laquelle nous assistons aujourd'hui ou depuis toujours, derrière ce rejet de la parole de Dieu, derrière ces attitudes abominables et horribles vis-à-vis du Seigneur, il y a aussi l'action des ténèbres. Il y a, hélas et malheureusement, les envahisseurs de l'abîme, les envahisseurs des abysses qui tirent les ficelles et qui dressent les gens les uns contre les autres, qui entraînent la mort partout où ils passent. Nous allons relire Luc 8, mais simplement une partie du passage, et puis nous poursuivrons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. Commençons avec Luc chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 26, c'est donc l'histoire de cet homme de tombeau qui va rencontrer le Seigneur et qui va être complètement débarrassé de ses démons. Il va voir l'emprise diabolique, mortelle, destructrice du diable être brisée par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 23, nous lisons. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est donc vis-à-vis de la Galilée. Nous sommes de l'autre côté, à l'est de la Galilée. C'est donc un territoire dont le peuple était majoritairement d'origine grecque ou autre. Donc il y avait très très peu de Juifs. Nous ne sommes pas en Israël. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint donc au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, cet homme ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais hélas, parmi les tombes. Voyant Jésus, cet homme poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait en effet lié de chaînes et le fer en pied, mais cet homme rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, « car plusieurs démons étaient donc entrés en lui. » Et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne, et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ce pourceau, et il leur permit. Verset 33, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Et enfin, Actes chapitre 19, à partir du verset 10. Cela dura 2 ans. L'apôtre Paul est donc arrivé à Éphèse. Il s'est mis à enseigner, à proclamer l'évangile du Christ dans cette mégapole de l'époque, cette métropole. Et la Bible nous dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous injure par Jésus, celui que Paul prêche. » Ce qui agissait ainsi était cette fils d'un certain Sévar, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ?» Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les juifs, de tous, juifs et grecs qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait donc efficacement. Amen. Gloire au Seigneur. Littéralement, la parole croissait et se fortifiait. Jésus, le destructeur des œuvres des ténèbres, Jésus, le destructeur de l'ennemi de notre âme. Je voudrais revenir une fois de plus sur la réaction des démons lorsqu'ils ont été confrontés à la puissance du Seigneur. Attirer une fois de plus notre attention sur l'attitude qu'ont eu tous ces démons, ces milliers de démons qui avaient élu domicile dans cet homme. Lorsque cet homme est attiré par l'amour du Seigneur, eh bien, nous voyons que les démons réagissent. Mais comment réagissent-ils? L'homme qui était possédé par ces démons tombe aux pieds du Seigneur. Et les démons crient, proclament une voix forte. « Que me veux-tu? Quoi à moi et à toi? Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car le Seigneur, entre-temps, commandait donc à ses esprits de quitter le corps de cet homme dont ils avaient transformé la vie en une sorte d'épave, en quelque chose qui n'avait plus de valeur. Et les démons supplient le Seigneur de ne pas les envoyer, de ne pas les renvoyer dans ce que la Bible appelle l'abîme ou les abysses. Voyez-vous, il les supplie. Il lui demande avec instance, avec humilité, de ne pas les renvoyer dans ces lieux. Et nous verrons quels sont ces lieux qu'ils appréhendent tant, au point de vouloir aller dans la vie des porcs plutôt que d'aller dans les abysses. Mes amis, il y a tant à dire sur la réaction, sur l'attitude des démons lorsqu'ils sont confrontés à la puissance incommensurable de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Ce que nous avons vu la fois dernière, la première attitude, la première réaction sur laquelle j'ai attiré votre attention, c'est que pour les démons, mes amis, il ne fait aucun doute, Jésus est d'origine divine. Jésus est d'origine céleste. Jésus, eh bien, est plus qu'un homme. Oh, alléluia. Ils reconnaissent cela, sa divinité. Ce n'est pas un simple juif, ce n'est pas un simple rabbin, ce n'est pas un simple prédicateur de la parole, ce n'est pas un simple guérisseur. Il est plus que tout cela. Il est le fils du Dieu très haut. Yeshua ben El Elyon. Oh, alléluia. Ce sont les démons qui le proclament en tremblant. Non seulement ils reconnaissent cela, mes amis, ils supplient le Seigneur. Ils lui adressent deux supplications sur lesquelles j'aimerais revenir aujourd'hui. Quoi à moi et à toi? Comme je le soulignais la fois dernière, cette tournure hébraïque donc est employée pour indiquer que les deux parties n'ont rien à voir entre elles. Ce sont deux réalités aux natures tout à fait opposées. D'un côté, vous avez la lumière qui brille de toute éternité, lumière par laquelle tout est venu à l'existence, lumière qui est source de vie. Et de l'autre côté, vous avez les pouvoirs, les forces du mal, les envahisseurs des ténèbres, les forces obscures, les puissances démoniaques qui appartiennent au royaume des ténèbres. Et entre les deux, mes amis, entre les deux, il y a un gouffre infranchissable. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Si nous pouvions lire ce texte, mes amis, en hébreu ou en grec, nous comprendrions tout de suite que lorsque Jésus vient dans une vie, plus de possibilités pour un démon d'occuper un ou deux domaines de notre vie. Oh, alléluia. Il y a eu un temps où l'Église a été secouée par un enseignement qui prétendait qu'on pouvait être enfant de Dieu, né de nouveau, et en même temps voir encore quelques démons. Le Seigneur ne peut pas habiter une partie du cœur de l'homme et laisser l'autre partie aux démons. Il n'y a pas de communication entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de cohabitation, de négociation possible. Là où Jésus arrive, le monde des ténèbres déloge. Et ils partent. Oui, Satan et tout son royaume connaissent bien qui est Jésus. Qui est ce Jésus qui nous rassemble ce matin, ici dans sa maison, au centre évangélique et francophone de la Borne? Tous les démons de ténèbres, toutes les puissances et les forces du mal connaissent qui est Jésus. Voilà pourquoi ils font tout pour distraire l'humanité, l'éloigner du Christ, car ces démons, à commencer par leur chef Satan, le serpent antique, ils connaissent très bien que la seule manière d'échapper à leur influence, la seule manière d'échapper à leur emprise mortelle, c'est de rencontrer Jésus et d'entrer dans une communion profonde, vivante, avec le Seigneur de gloire. Alléluia. Tant à dire sur l'attitude des démons. Donc cette attitude met en évidence le fait que l'enfer tout entier, les abysses des ténèbres, connaissent très bien qui est le Jésus que tu as rencontré un jour. Oh, ma prière est que ce genre de paroles puissent nourrir notre foi, que nous marchions avec assurance, peu importe l'homme ou la femme devant nous, qu'il soit sorcier, qu'il soit un serviteur du diable. Avec Jésus et par Jésus, nous avons la victoire. Et nous allons continuer pour voir, avant de revenir sur les supplications, les deux principales supplications des démons, nous allons continuer avec la réaction des démons lorsqu'ils sont confrontés à la puissance du Seigneur. Nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, l'histoire de Paul, qui, lors de son troisième voyage missionnaire, il repasse par Éphèse. La première fois qu'il est passé par là, c'était lors de son deuxième voyage missionnaire. Il n'est pas resté longtemps. On l'a supplié de rester. Il a prêché, il a partagé la parole de Dieu dans une synagogue avec quelques disciples. Ils l'ont supplié de rester, mais comme il tenait absolument à être à Jérusalem pour prendre part à la fête juive, eh bien, il s'est excusé, il est parti. Et là, lors de son troisième voyage, il prend du temps pour rester dans cette ville. 2 ans, nous l'avons lu. Il est donc à Éphèse, qui était une ville portuaire, une métropole importante. On estime sa population à l'époque à 200 000 habitants. Vous vous rendez compte? Pour l'époque, ça devait être une très très grande ville. Éphèse était un foyer des cultures et des rayonnements intellectuels. Pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, Héraclite, le philosophe grec, était originaire d'Éphèse. C'était donc un centre aussi de l'art. C'était une ville où on trouvait toutes sortes d'activités commerciales. Et les orfèvres et les commerçants d'Éphèse étaient très, très réputés. C'était donc une très, très belle ville. Mais on y rencontrait également, en dehors des synagogues juives qui étaient bien implantées, puisque la communauté juive était importante dans cette ville, on y rencontrait également des cultes dédiés à toutes sortes de divinités païennes. Voyez-vous, comme ça se faisait à l'époque dans le monde gréco-romain, des temples, des sanctuaires dédiés à telle divinité, à telle autre divinité, etc., dont les gens avaient le choix. Et il y en a qui faisaient le tour de tous ces temples, etc. Et il y avait en particulier, donc, dans cette ville d'Éphèse, un temple qui était dédié à la déesse Artemis ou Diane, en latin. Ce temple-là était considéré à l'époque comme l'une des sept merveilles du monde. C'était un temple qui interpellait quand on arrivait à Éphèse. Et cette divinité démoniaque avait beaucoup d'adeptes, beaucoup d'adorateurs. Et des gens venaient d'un peu partout du monde gréco-romain pour venir, mes amis, adorer cette divinité. Et il y avait des orfèvres qui faisaient des petites figurines à l'image de cette déesse. Et les pèlerins, les gens qui venaient pèleriner à Éphèse, pourraient acheter toutes ces figurines et les ramener chez eux. Mais Éphèse était aussi connue pour ces magiciens qui étaient très célèbres. C'était une ville qui régorgeait pas mal de magiciens, de gens qui s'adonnaient à la sorcellerie, beaucoup de diseurs de bonne aventure. C'était un grand centre d'incantations magiques. L'occultisme était en vogue, voyez-vous. Donc une ville complètement plongée dans les ténèbres morales et spirituelles. Et c'est là que l'apôtre Paul arrive. C'est là que l'homme de Dieu prêche le Christ. Et sa prédication rencontre beaucoup de succès. Oh, alléluia. Beaucoup de succès. C'est ainsi que plus tard, cette métropole, cette ville d'Éphèse deviendra plus tard la métropole chrétienne d'Asie. Et encore aujourd'hui, si vous allez en Turquie, vous allez à Éphèse, vous allez voir tous ces vestiges qui montrent que le christianisme était bien implanté. Ça deviendra un centre de rayonnement chrétien dans l'Asie. Et quand on parle de l'Asie, ça n'a rien à voir avec l'Asie actuelle, c'est-à-dire cette partie de la Turquie actuelle. Il arrive donc dans cette ville infestée des démons, dans cette ville dominée par les esprits démoniaques, dans cette ville sous l'emprise satanique, et prêche la parole de Dieu. Et nous l'avons lu, mes amis, des résultats extraordinaires, des conversions massives, des gens qui sont délivrés de la sorcellerie, qui sont délivrés de l'occultisme, de l'obscurité des ténèbres, qui rencontrent Jésus la lumière, qui changent de vie, qui passent de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est ce qui arrive lorsque Jésus passe quelque part. Voilà pourquoi vous et moi, nous avons ce devoir d'aller un peu partout pour annoncer Jésus. Il n'y a pas d'autre solution pour arrêter l'influence maléfique, malfaisante, démoniaque dans notre monde aujourd'hui que d'aller et d'annoncer l'évangile du Christ. C'est lui qui est la lumière. Aucune religion, mes amis, ne peut arrêter toute cette tempête démoniaque qui détruise de plus en plus l'humanité. Un seul peut le faire. Un seul l'a fait. Un seul le fera. Jésus de Nazareth. Mes amis, proclamons ce message. N'essayons pas de répandre nos convictions religieuses, nos convictions philosophiques, mais annonçons, proclamons une personne, Jésus de Nazareth. Mettons les gens en contact avec lui et nous verrions nos sociétés changer. Et nous verrions des vies complètement transformées, complètement métamorphosées. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est un des rares endroits où l'auteur précise que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Mes amis, Jésus l'avait dit, celui qui croira en moi fera de choses que j'ai faites et encore de choses beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, Jésus est capable, mes amis, d'accomplir de choses inimaginables dans nos vies. Il est capable de nous changer, de nous transformer, de nous délivrer, mes amis, de la rouille morale qui corrode nos vies, de nous délivrer de tout cela. Il y avait une telle onction sur les serviteurs de Dieu, sur l'apôtre Paul, que la Bible nous dit que les gens venaient avec les linges et les étoffes qui avaient touché le corps de Paul, partaient pour appliquer ces linges-là et ces étoffes sur les malades, et les malades étaient guéris. Quelle onction! Oui, Jésus est derrière sa parole pour l'accomplir. Et partout où nous prêchons, proclamons l'évangile, dans la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur est là. Il est là pour accompagner sa parole, pour accompagner, mes amis, la prédication de l'évangile par une démonstration de puissance et d'esprit. Jésus n'a pas changé. Annonçant ce message, disons aux gens que la religion est vaine. Et Karl Marx avait raison en son temps de dire que la religion est l'opium du peuple. C'est un soporifique dangereux. Voyez-vous ? Regardez comment la religion ou le religieux s'opposent au Christ, aujourd'hui encore. Vous les voyez dans leurs habits pompeux, voyez-vous, dans leurs vêtements d'apparat, imbus d'eux-mêmes, arrogants, voyez-vous. Ils vous donnent l'impression d'être des saints par leur démarche, par leur manière d'agir, voyez-vous. Mais en réalité, ce sont des sépulcres blanchis. Attention, mes amis, ne vous laissez pas berner par l'apparence trompeuse. Accrochez-vous à Jésus. Méditez sa parole, mangez sa parole, dévorez sa parole. Annoncez tout autour de vous qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Gloire à Dieu. Évidemment, à Éphèse, tout ce que le Seigneur accomplissait par Paul s'est répandu comme une traînée de poudre. Tout le monde en parlait. C'est incroyable. Dans cette ville vouée à la magie, vouée à l'occultisme, dans cette ville vouée à la sorcellerie, au culte païen, dans cette ville où on trouvait toutes sortes de religions à mystère, voilà qu'il y a un homme qui arrive, qui prêche une personne, Jésus-Christ, qui affirme que c'est Jésus est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est le seul qui sauve, et qui ensuite, au nom de ce Jésus-là, des miracles s'accomplissent. Les malades sont guéris, ceux qui sont possédés par les démons sont complètement délivrés. Évidemment, tout cela s'est répandu un peu partout et c'est arrivé aux oreilles des exorcistes. Il y en avait. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de magiciens, beaucoup d'exorcistes. Ce sont des gens qui faisaient le métier de chasser les démons en respectant tout un rituel. Et aujourd'hui encore, vous avez des gens qui prétendent détenir le pouvoir ou chasser les démons en recourant à des rites bien spécifiques. Voilà, il y en a qui allument des bougies, il y en a qui font des cercles, ils font des incantations, ils parlent en langue, mais une langue démoniaque, ils vous effrayent, etc. Et ils vous disent que voilà, de cette manière, les démons partiraient. Non! Les démons ne partent que lorsqu'ils sont confrontés à un nom. Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Ainsi, il y avait dans cette ville d'Éphèse des exorcistes juifs ambulants. Voyez-vous, ils allaient de ville en ville pour faire leur métier d'exorciser les gens, de chasser les démons des vies des gens. Voyez-vous ? Et après, ils ont été attirés. D'abord, ils ont entendu et puis ils sont venus voir. Voyez-vous ? Se disant, oui, mais c'est peut-être une nouvelle pratique. Comment lui fait ? Et nous pourrions prendre ce que lui fait, l'associer à ce que nous faisons et continuer donc notre métier. Ils sont venus, ils ont vu que Paul
ne se livrait pas à un rite particulier. Il ne faisait pas des gestuels, il ne s'agitait pas, il ne fermait pas les yeux, tout ce tralala, pas du tout. On lui amenait le malade. Il imposait les mains au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Le malade était guéri. Oh, alléluia. Des démons, des démoniaques, des gens qui étaient babidés par des démons, quand il les regardait, il invoquait le nom du Seigneur. Rien de spécial. Il dit, ah bon, mais c'est si simple alors. On n'a pas à prendre un livre magique, à lire, à faire des incantations d'un autre monde pour que les démons partent. Il s'agit simplement de dire au nom de Jésus, et puis après les démons vont partir. Oh là là, nous avons là une nouvelle formule d'exorcisme. Voyez-vous, c'était sept fils d'un certain Séva. Et ce Séva-là n'était pas n'importe qui. C'était un homme connu dans la ville d'Éphèse, parmi les Juifs, puisqu'il était un des principaux sacrificateurs. Voyez-vous. Donc ce sont des enfants qui ont grandi avec la Torah, qui connaissaient bien la Torah comme tout enfant juif. Déjà à 5 ans, il y avait des écoles pour apprendre aux jeunes Juifs la lecture de la Torah, le respect de la loi de Moïse, etc. Donc nous pouvons tout à fait nous imaginer qu'ils avaient eu l'occasion d'écouter la Torah, de respecter toutes sortes de principes de la Torah, des feintes, etc. Et puis les voilà, après avoir entendu, après avoir vu Paul qui chassait les démons au nom du Seigneur, ils sont partis et ils se sont mis à invoquer le nom de Jésus sur des gens qui étaient possédés. Gravissime erreur. Ils ont commencé à invoquer le nom du Seigneur sur les gens qui avaient les démons. Voyez-vous? Et voilà qu'un jour, alors qu'ils invoquaient le nom de Jésus sur un homme possédé, la Bible nous dit que ce démon va parler. Il va s'adresser à ces aventuriers, à ces charlatans. Et j'aime beaucoup cette réponse, la réaction des démons, vous voyez. Les démons leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. » Mes amis, quelle grâce, quel privilège d'être en Jésus-Christ. Car non seulement les démons connaissent celui qui habite en nous, mais de par la présence du Seigneur en nous, les démons savent qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de la lumière. Nous sommes véritablement nés de nouveau. Nous appartenons au royaume du Père. Nous n'avons plus rien en commun. Les démons le savent, mes amis. Ils n'ont pas besoin d'aller dans une faculté des ténèbres pour apprendre quoi que ce soit, mais ils savent. Là, Éphèse, Paul n'était pas d'origine éphésienne, non pas du tout. Éphésienne, pas du tout. Mais le démon affirme. Paul, je sais qui il est. Jésus, j'aime beaucoup. Hein. Il sait qui est Paul, mais il connaît. Il connaît Jésus. C'est la même réaction que les démons qui avaient possédé cet homme des tombeaux, le fou des Gadara. Voyez-vous? Et vous, qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Au nom de qui vous pouvez me demander de quitter cet homme en qui j'habite? C'est ma résidence secondaire. Au nom de qui? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Puisqu'ils étaient à sept. Qui devaient certainement accompagner l'invocation du nom du Seigneur par toutes sortes de gestuels et tout ça. Vous voyez, les gens du monde aiment ça. Tout ce tralala. Voyez-vous? Donc, les gens un peu qui lèvent les mains, qui se tremoussent, qui s'agitent, qui tournent. Au nom de Jésus, au nom de... Ah, les gens aiment ça. Dieu est là. Tromperie. Voyez-vous? Et vous, qui êtes-vous? Et la Bible nous dit que l'homme dans lequel était l'esprit mauvais cette force du mal, cette force démoniaque, s'élança sur eux, les maîtrisa. Quelle force incroyable! C'est comme l'homme de Gadara, hein? Vous voyez, mes amis? Eh bien, quelle force incroyable! Un seul homme démonisé, un seul homme habité par l'esprit mauvais, fait preuve d'une force incroyable. Cinq personnes n'ont pas pu résister à cet homme-là. Il les a tellement maîtrisés, il les a tellement malmenés, mes amis, avec une telle force qu'ils ont fini par quitter cette maison, par partir nus et blessés. Quelle humiliation! Ne jouez pas avec le diable, à moins d'être couvert par le sang de Jésus. Oh, alléluia! N'essayez pas de vous amuser. Vous iriez tout droit au devant de la mort. Voyez-vous? Oui, tous les démons. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tous les démons. Et Satan lui-même, leur chef, connaissent qui est Jésus. Mais aussi, ils savent qui nous sommes. Donc, quand vous passez quelque part, vous n'avez pas besoin de dire tout le temps, « Je suis à Jésus, je suis à Jésus. » Non! Le démon vous regarde et se dit, ça c'est encore un de ceux-là. Oh, alléluia! Voilà. Ils savent qui vous êtes. Voilà pourquoi ils vous combattent. Ils utilisent vos collègues au travail pour vous combattre. Alors ne réagissez pas comme vos collègues. Ne laissez pas votre chair réagir. Allez au-delà de la réaction humaine. Bénissez Dieu, dites Seigneur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais tant que tu es avec moi, ils ne pourront pas me bouger. C'est parce que nous sommes en Christ que les diables, tous les démons, eh bien, ont déversé et déversent sur nous toute la haine qu'ils ont contre la personne du Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, ils vous haïront. Ils vous persécuteront à cause de moi. Alors, mon frère et ma sœur, sois serein. L'épreuve fait partie de la vie de ceux qui appartiennent à Jésus. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des étrangers. Nous dérangeons parce que nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi le monde nous combat. Voilà pourquoi le monde ne nous tolère pas. Voilà pourquoi le monde se réjouit lorsqu'un malheur nous arrive. Mais ne vous effrayez pas, ne vous effrayez pas, ne tombez pas dans le piège du diable. Votre Père a disposé un royaume pour vous. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes en route vers une éternité glorieuse avec Jésus de Nazareth. Jésus le Seigneur des Seigneurs, Jésus le Roi des Rois, alléluia. Gloire à Dieu. Je connais Jésus, dit le démon. Et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez que le diable n'est même pas impressionné par le fait que ses sept fils avaient pour père un sacrificateur. Ils ne sont pas du tout effrayés. Non! Voyez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes le neveu du cousin, de l'évêque, de l'archevêque ou du cardinal. Ce n'est pas parce que vous êtes la petite fille de l'évêque protestant ou que sais-je, que les démons auraient peur de vous. Pas du tout. Les démons ne sont pas impressionnés par tous ces titres-là. Les démons sont impressionnés par un seul nom. Alors ayez ce nom dans la bouche. Alors ayez ce nom dans le cœur. C'est un nom formidable. C'est un nom extraordinaire. Face à la puissance du diable, face aux forces du mal, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'un seul nom. C'est celui de Jésus-Christ. Même pas le nom d'Abraham. Car il y en a qui brandissent, nous sommes les descendants d'Abraham. Voyez-vous la Bible, Paul en parle, hein? Voyez-vous? Oh, nous sommes ceci, nous sommes, c'est pas ça qui impressionne les démons. Au contraire, il vous laisse tranquille. Il dit continue, il vous donne même la force de continuer à brandir votre appartenance à telle ou telle autre religion. Voyez-vous? La Bible est claire. Il n'y a sous le ciel, il n'y a ici-bas sur cette terre, aucun autre nom donné parmi les hommes pour affronter les démons, pour affronter les esprits impurs, même pour affronter Satan lui-même, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Oubliez tout, sauf ce nom-là. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre combien ce nom est puissant, combien ce nom est tout-puissant. Lorsqu'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Lorsqu'il est avec nous, la victoire nous est assurée. Les gens pourront se moquer de nous. Nous pourrions nous trouver dans un contexte plongé dans l'obscurité, dans l'incertitude. Mais tant que lui est avec nous, eh bien, nous aurons toutes les raisons de continuer à croire et avoir de l'espérance. Car rien ne peut nous arriver au hasard, nous dit la parole de Dieu. S'il permet quelque chose, eh bien, la chose finira tôt ou tard par concourir à notre bien, par contribuer, mes amis, à notre édification, d'une manière ou d'une autre. Que nous dit la Bible à propos de Jésus? Oh, il y a tant de choses. Toute la Bible, mes amis, a été écrite pour nous révéler le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Les croyants de l'Ancien Testament l'ont vu au travers de toutes sortes de symboles. Ils ont vécu avec l'espoir que le Messie viendra un jour. Nous le trouvons présent dans tous ces rites de Moïse. Mais tout cela n'était que le symbole. Tout cela n'était que préparation du véritable agneau de Dieu qui allait venir plus tard pour payer le prix de notre rachat, de notre délivrance. En bref, la parole de Dieu proclame que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, notre Sauveur, d'entre les morts. Non seulement il a ressuscité en déployant son omnipotence, sa force toute puissante, nous dit Paul aux Éphésiens, mais il a aussi fait asseoir à sa droite, oh alléluia, position d'autorité, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté. Mes amis, le monde des ténèbres, le royaume du diable, est un royaume structuré. Il y a des princes, il y a des démons, des soldats, tout ce que vous voulez. Il y a des principautés. Mais lui, Jésus, de par son élévation, de par sa position à la droite de la majesté divine, il est au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, autorité spirituelle, autorité politique, autorité financière. Il est au-dessus de toute autorité, mes amis. Oh, alléluia! Il est au-dessus de toute forme d'impérium, Jésus. Au-dessus de toute puissance militaire, économique ou autre, Jésus. Au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, mes amis, ici-bas, non seulement dans ce siècle-ci, mais aussi dans le siècle à venir, oh alléluia. Jésus est ressuscité, il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité au troisième jour, il est vivant au siècle des siècles, oh alléluia. Paul a prêché le Christ. Quand il est arrivé à Athènes et qu'il a eu affaire à tous ces gens qui appartenaient à différentes écoles philosophiques, les stoïciens, les épicuriens, eh bien, il a annoncé Jésus mort pour le salut de l'humanité, mais aussi Jésus ressuscité des morts. Mes amis, la résurrection de Jésus n'est pas une sorte de brimade intellectuelle. Ce n'est pas une sorte d'imposture théologique ou historique. La résurrection de Jésus est un fait historique et notre victoire et toute notre foi est fondée sur le fait que Jésus est venu, qu'il a pris nos péchés, qu'il est mort et au troisième jour, il est ressuscité. C'est Jésus est là au milieu de nous. Alléluia. Regardez autour de vous, regardez devant vous, regardez derrière. Eh bien, le Seigneur est là. Notre Jésus est là. Gloire à Dieu. Dieu a tout mis sous ses pieds. Tous les démons. Satan lui-même. Aucun homme, mes amis. Il a mis tout sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oh, formidable! J'aime beaucoup cette parole. Voyez-vous, mes amis, qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23. Voyez-vous? Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Il n'y a pas de chef. Il y a un seul chef lorsqu'il est question de l'Église de Dieu. Le chef suprême ne se trouve pas quelque part dans une cité dite sacro-sainte. Il n'est pas quelque part dans une ville. Le chef de l'Église n'a même pas été Pierre, ni Paul, ni Jacques, que sais-je. Le chef suprême de l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Et cette Église-là n'est pas une organisation politico-mafieuse, n'est pas une institution religieuse, il est bien dit. Hein. L'Église qui est son corps, le corps mystique du Christ. Il faut faire partie de ce corps-là pour espérer un jour partager l'éternité avec lui. Oh, alléluia! Et Jésus lui-même, après sa résurrection, avant de retourner auprès du Père, avait déclaré à ses disciples, « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. » Mes amis, dans le ciel et sur, alors marchez avec assurance. Marchez avec assurance. Ne craignez rien. Votre vie se trouve dans la main de celui à qui appartient toute autorité. Votre vie se trouve dans la main de celui qui vit au siècle des siècles. Personne ne peut vous ravir de sa main, à moins que vous-même, vous quittiez sa main. Le diable, quelquefois, nous lui prêtons le pouvoir qu'il n'a pas. Il y en a qui le voient partout, voyez-vous, qui voient les démons partout, comme s'ils étaient omniprésents. Il n'y a qu'un seul qui est omniprésent, qui est partout à la fois au ciel et sur terre, dans tout l'univers. Celui-là, c'est Jésus. Jésus le Sauveur. Gloire au Seigneur. Pour Jésus, que le nombre de démons dans telle ou telle autre situation soit élevé ou pas, pour Jésus, ça ne change rien. Ça peut être un seul démon, tout comme ça peut être des milliers de démons, des légions de démons. Lorsqu'il se met là, l'enfer recule. Pour Jésus, ça ne change rien. Voyez-vous, quand il est avec toi, cela suffit. Et ils peuvent être des milliers, mais celui qui est en toi, celui qui est avec toi, celui qui est pour toi, lui n'est pas du tout impressionné par le nombre. Il n'est pas du tout impressionné par la force, mes amis, la présence de certains princes des ténèbres. Il commande et les démons s'exécutent. C'est formidable. Pourquoi courir encore après un homme, qu'il soit prophète, qu'il soit évêque ou archevêque? Pourquoi courir encore, mes amis, après une religion, qu'elle soit monothéiste ou polythéiste? Pourquoi? Christ a tout accompli. C'est en Jésus que tu peux être protégé contre la malédiction. Car la malédiction ne peut rien. Elle est sans effet pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Elle a été prise par Christ sur lui. Et en lui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors que quelqu'un te menace, tu verras, tu n'iras pas loin. Souriez simplement, dites-lui que Dieu te bénisse, tu ne sais pas ce que tu dis. Car ce qu'il prononcera ne t'atteindra jamais. Nous volons tellement haut pour que la bave des démons, nous volons tellement haut pour que la bave de ceux qui nous haïssent puisse nous atteindre. Alors accrochez-vous à Jésus. Réveillez-vous avec lui. Commencez la journée avec lui. Allez au travail avec lui. Dans votre bureau, soyez avec lui. Lorsque vous prenez part à un rassemblement, qu'il soit avec vous, dans vos réunions politiques, soyez encore avec lui. C'est lui notre libérateur.
C'est lui notre force. Alléluia. Et je vais terminer cette partie par cette parole merveilleuse que l'apôtre Paul, un des champions et des héros de la foi chrétienne, a dit. Lui qui a expérimenté toutes ces choses. Mes amis, quand il écrit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, écoutez ce qu'il leur dit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en toute odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2,14. J'aime beaucoup ce passage. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous échouons quelque part, c'est nous, mais pas lui. Voilà pourquoi nous devons être animés d'une foi ferme. Ne pas reculer face aux attaques, face aux assauts démoniaques. Ne pas avoir peur et trembler. Ce n'est pas à nous de trembler. Non, c'est à eux. Parce que celui qui est en nous est plus fort, tout puissant, que celui qui est en eux. Et enfin, et je terminerai là, la deuxième chose sur laquelle j'aimerais m'attarder, c'est la demande des démons. Non seulement ils reconnaissent l'origine divine du Seigneur, que Jésus vient d'en haut, qu'il est d'origine céleste, mais les démons adressent à Jésus une demande sous forme de supplication. Et comme je l'ai dit la fois dernière, supplier veut dire demander avec humilité. Demander avec insistance, de manière pressante. Supplier, c'est implorer. Les démons implorent parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Deux supplications. La première, et je m'arrêterai là. La première, le diable, ou plutôt les démons, le porte-parole des démons. Ils ont aussi un porte-parole. Hein? Vous rigolez, pourquoi ? Celui qui s'exprimait, qui prenait la parole au nom des autres, la première supplication, c'est que les démons demandent au Seigneur de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, dans les abysses. Et nous verrons qu'est-ce qui les fait tant peur. Pourquoi ne veulent-ils pas aller dans ce lieu que la parole de Dieu appelle l'abîme, du grec abyssos. Je reviendrai là-dessus. Ce qu'on a traduit par abyss, ce n'est pas abyssos, abus. Pour ceux qui ont fait un peu le grec, le U, grec qu'on appelle le upsilon, est devenu Y en français. Donc, les abysses, nous verrons ce quoi. Pourquoi supplie-t-il le Seigneur en disant, oh, de grâce, ne nous envoyez pas là-bas. Voilà la première supplication. Et la deuxième, que le Seigneur leur permette d'entrer dans le pourceau. Voyez? Donc, ne pas aller là-bas, c'est qu'il doit y avoir des raisons, n'est-ce pas? Au point de préférer la vie des porcs. Et le Seigneur va le leur permettre. Il dit, voilà, vous quittez cet homme et puis vous partez dans le pourceau. Et quand ils entrent dans le pourceau, c'est la catastrophe. Les pourceaux ne se sont pas mis à danser. Les pourceaux se sont dirigés tout droit vers la mer de Galilée où ils se sont tous noyés. Cela nous montre, je reviendrai là-dessus, la nature malveillante. La nature malfaisante, la nature diabolique, méphistophélique des démons, même dans les animaux, eh bien leur nature se manifeste, conduire à la mort, avec toutes les conséquences que cela va avoir sur le plan économique. Ça va faire un véritable manque à gagner. Vous vous rendez compte un peu? Ceux qui élevaient presque 2000 porcs, eh bien ils s'attendaient à les revendre, non? Donc, économiquement, les démons vont mettre un coup d'arrêt. Vous voyez, nous verrons. Mais bon, je ne m'attarderai pas là-dessus, parce qu'il faut qu'on avance. et nous en reparlerons. Mais sinon, mes amis, nous avons toutes les raisons de rendre grâce à Dieu. Dès qu'en Jésus-Christ, Dieu nous fait toujours, toujours triompher. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors ça vaut la peine de l'acclamer. Ça vaut la peine d'acclamer Jésus. Merci. Marchez avec assurance. Quand vous rentrez à la maison, quand vous rentrerez à la maison, mettez-vous devant votre miroir, regardez-vous. Peu importe ce que vous allez voir, mais dites-vous bien, mais j'appartiens à Jésus. Regardez-vous et admirez-vous parce que vous rayonnez de la lumière du Christ. Regardez-vous et dites, Seigneur, merci. Moi, un bout d'homme comme ça. Moi, un bout de femme. Moi, sur le caca, qu'on a rejeté partout. Moi qui a été humilié. Moi qui ai passé par toutes sortes d'épreuves. Moi, là, Seigneur, les démons, s'ils m'entendent, ils me connaissent. Parce que toi, Jésus, tu es en moi. Et mon nom figure, ton nom figure sur moi. Et quand les démons me regardent, ils te voient forcément. Et ils se mettent à trembler. Acclamons son nom. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Je voudrais que des prières montent vers le Seigneur, des prières d'action de grâce, des prières de remerciement, des prières qui disent au Seigneur, Seigneur, merci pour ce privilège de te connaître, merci pour cette grâce d'être en toi, car en étant en toi, je suis à l'abri de l'emprise mortelle du diable. Je suis à l'abri de toutes ces flèches empoisonnées que le diable me lance. Seigneur, merci pour ta parole. Quel bonheur de t'appartenir. Quelle grâce de marcher, Seigneur, en sachant que tu es en nous. Seigneur, et ta présence en nous est victoire face aux démons. Ta présence en nous est salut face à la perdition. Ta présence en nous est liberté face à l'esclavage. Ta présence en nous, c'est ta gloire. Merci pour tout. Bénis cette parole. Et donne-nous de la proclamer tout autour de nous. Seigneur, après ce moment merveilleux passé à tes pieds, à écouter ta parole, nous voulons, Seigneur, terminer ce moment en te louant, t'adorant, avec, Seigneur, cet argent que nous allons te donner. Que ce soit sous forme d'une dîme, d'une offrande ou de toute autre libéralité, que cela soit, Seigneur, une occasion pour nous de nous approcher une fois de plus pour t'encenser avec cela. Bénis ces offrandes et tous ces paniers qui vont passer à travers la salle, mais également, Seigneur, à travers le chapiteau ou les hangars. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Alléluia.
Attends.
J'aime ce nom. Qui est tout?